Alors, j'ai abordé la prière de requête, hein, c'est ce qu'a fait en partie ce matin Oscar, qu'on fait le mercredi. Je vous invite à venir dans ces rencontres. C'est très important d'apporter les requêtes au Seigneur et de croire que Dieu répond. Il faut exercer notre foi. Ensuite, il y a les prières de proclamation ou prophétique. Hein, on peut recevoir des prophéties de la part de Dieu au travers de prophètes, mais pas que, hein. Dans la rue, vous pouvez rencontrer quelqu'un et il peut parler de la part du Seigneur, vous voyez, un inconverti complet. Voilà, simplement, il faut être à l'écoute de ce que le Seigneur dit pour pouvoir recevoir des choses de la part du Seigneur. La prière d'action de grâce, hein, donc ça n'a pas besoin d'être développé, mais je l'ai fait quand même. Pour être tout le temps reconnaissant, dès qu'on fait une prière, il faut la suivre de l'action de grâce. La louange, comme on a fait ce matin, et c'est bien de commencer les cultes par la louange qui est adressée à Dieu, parce que c'est vraiment une forme de reconnaissance et de proclamation. Alors, il y a différentes formes de louange qu'on avait développées dans nos rencontres qu'on appelait des rencontres de louanges, hein, qui durent 2, 3 heures. On l'a fait et je crois qu'il faudra revenir à ça parce que c'est très important. Et là, on a différentes formes de louanges, célébration, adoration, etc. La sixième forme de prière, c'est l'adoration, justement. Et on peut même complètement se mettre par terre. Hein, à son époque, Marie-France avait un très bon enseignement aussi sur l'adoration. Tous les gestes, enfin dans l'Ancien Testament, quand on parle de louange, c'est que des gestes physiques. C'est pour ça aussi que dans notre Église, on invite les gens à s'exprimer physiquement, parce que dans l'Ancien Testament, c'était que des gestes physiques qui exprimaient l'adoration. Se mettre à genoux, se mettre devant, lever les mains, etc. La septième forme de prière, c'est l'intercession. C'est-à-dire qu'on se place, on prie pour quelqu'un et on intercède. Une des meilleures formes, c'est ce qui s'est passé avec Lot et Abraham, rappelez-vous, où Abraham a vraiment insisté pour que Dieu ne détruise pas la ville avec Lot et que Lot a pu sortir de la ville sans, avec sa famille. La huitième prière, c'est la prière d'accord. La Bible dit, mets-toi d'accord avec quelqu'un. Si deux ou trois sont d'accord, il y a cette puissance de réponse à Dieu qui aime bien. Et justement, ça rejoint ce que disait Oscar tout à l'heure, être unis, l'unité. Et ça, on le voit dans Actes 2, 42. Ils étaient tous ensemble, ils étaient tous d'accord sur. Quand ils ont prié pour Pierre qui était en prison, ils sont mis d'accord. Et vous voyez, la prière d'accord est absolument puissante pour le Seigneur. Il aime bien l'accord des uns et des autres sur un même sujet, et en particulier la vision. Justement, c'est un peu le thème de cette année, retrouver la vision du phare. Il faut qu'on soit d'accord ensemble sur la même vision. La neuvième forme de prière, c'est la prière de supplication. Alors là, vraiment, on peut suppliquer jusqu'à, disons, sortir ses tripes. Hein. Je veux dire, voilà, il y a des temps où vraiment, Michel et moi, on a connu ces temps de supplication, où vraiment, on n'en pouvait plus. Et là, le Seigneur aussi, il aime ces temps de supplication quand vraiment on est au bout. Il faut aller jusqu'au bout, il faut croire à la prière de supplication. Et l'exemple, c'est cette femme qui est allée auprès du juge. Il l'a supplié, il était obligé de répondre à cette femme sur sa prière. La dixième, pardon, c'est la prière d'humiliation, donc de repentance. Ainsi, mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, etc. Donc ça, c'est des formes aussi qu'on pratique. On a beaucoup pratiqué à l'Église, on continuera à pratiquer. Je préconisais une fois par an, mais bon, cette Église peut faire autrement, au minimum, pour vraiment, un peu comme les Juifs à la fête de Yom Kippour, vous voyez, c'est un temps voilà, où on peut repartir un peu, mettre les compteurs à zéro. Si on peut dire, en tout cas, se remettre en cause pour vraiment voir où ça va pas, où on a tous, on pêche tous, et en tant qu'Église aussi. Donc, prière d'humiliation. La prière en langue. Donc, Paul dira à ses membres, je parle beaucoup plus en langue que vous, parce qu'en fait, quand vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même. Et ça aide aussi la prière de requête, la prière dans tous les domaines, ça vous édifie intérieurement. Alors, il y a des langues aussi qui doivent être traduites dans l'Église, ça c'est un Corinthiens 14. Vous voyez, je vous donne quelques petits trucs. Hein. Il y a vous connaissez tous un Corinthiens 13 qui est l'amour. Eh ben, c'est pris en sandwich, l'amour est pris en sandwich entre un Corinthiens 12 et un Corinthiens 14. Et 1 Corinthiens 12 et 14, l'apôtre explique comment il faut conduire l'Église, comment il faut conduire les cultes. Et au centre, c'est l'amour. Voilà, donc c'est le sandwich McDonald's de l'apôtre Paul. Et vous avez donc là l'explication, comment il faut parler en prophétie, les langues, etc., les interventions. Et j'espère que cette Église pourra reprendre le chemin des exercices, des dons spirituels. Hein, ça a été extrêmement important, l'Église de Pentecôte, et c'est comme ça que l'Église de Pentecôte a grandi dans ce pays de France qui est très difficile, mais là ça a explosé parce qu'il y a eu beaucoup justement d'expressions des différents ministères du Saint-Esprit et j'espère qu'on va le retrouver. Dans la prière consultative, cette prière consultative, je vais en dire un mot, c'est qu'elle permet de demander le conseil de Dieu. Il y en a qui veulent le conseil de Dieu. Moi, je veux bien le conseil de Dieu, plutôt le conseil des hommes. Mais il peut utiliser des hommes pour donner le conseil. Et donc, voilà, et il ne faut pas rejeter. Parce que Dieu nous parle directement par des anges, je sais bien, quand j'étais jeune converti, j'attendais ça. Hein, bon, je vois que j'ai eu des révélations de ce type-là, mais c'est quand même souvent par l'intermédiaire des hommes. C'est pour connaître la volonté de Dieu. Sur quelque chose, hein, et en particulier des grands. Hein, quand on veut se marier, c'est quand même bien de connaître la volonté de Dieu pour. On s'engage toute la vie. Mais il y a d'autres choses qui sont aussi importantes qu'on doit connaître pour le travail, etc. Nous devons consulter Dieu avant de prendre des décisions qui peuvent être lourdes de conséquences. Et nous devons donc être conduits par le Saint-Esprit qui nous est donné quand on accepte Jésus. Dans le Nouveau Testament, eh bien, et pour éviter de tomber dans d'autres conseils qui sont suscités par l'ennemi, hein, qui a toujours des gens à vous conseiller. Voilà, donc on a toujours cette difficulté de bien connaître la volonté de Dieu. Le roi David avait l'habitude de consulter régulièrement Dieu, ce qui lui a valu de nombreuses victoires dans ses batailles. Vous savez pourquoi il n'a pas eu le droit de construire le temple, David? Pardon? Pardon? Voilà, parce qu'il était trop guerrier. Voilà, et donc Dieu a dit non, non. Vous voyez, il y a une logique hein, dans ce que Dieu fait. Hein. Il n'est pas illogique complètement. On comprend certaines choses. Et voilà, c'est un guerrier et Dieu a dit non, c'est ton fils. Et Salomon est un homme de paix. Pourquoi? Parce que lui, il agrandissait le royaume. Là, David a agrandi le royaume. C'était un guerrier. C'est lui qui a tué Goliath, etc. Et voilà, donc. Dieu réserve certains temps à certains hommes qui sont préparés d'avance pour certaines choses. Donc c'est Salomon qui a pu construire le temple de Dieu pour que Dieu puisse résider au milieu de son peuple. Donc on a de nombreux moments où justement on le voyait gagner des batailles, mais il consultait Dieu auparavant. Et il y a des batailles formidables où il n'a pas fait grand-chose. C'est Dieu qui a envoyé des anges pour lui donner la victoire. Le roi Saül, lui aussi, consulta Dieu, mais à cause de sa désobéissance, Dieu ne lui répondit pas. Voyez-vous? Donc, quand vous priez et vous n'avez pas de réponse de Dieu, posez-vous la question. Posez-vous la question. Il y a du sens, parce que Dieu est une personne aussi, hein, même si c'est un mystère incréé, mais il nous parle. Et s'il ne nous parle pas, eh ben, il faut continuer à chercher Dieu. Il y a peut-être des temps où il faut se repentir. Nous, on a connu ça aussi dans l'Église, pour retrouver leur relation directe avec Dieu. Dieu ne répondit à Saül ni par des songes, ni par quoi que ce soit. Et du coup, il était tellement découragé qu'il est retourné voir une magicienne. C'était interdit, bien sûr. Et là, il a vu Samuel qui venait. Enfin voilà, il a paniqué et c'était la fin de son ministère. Il convient donc de marcher dans l'obéissance. Et cela n'est pas profitable de chercher à connaître la volonté de Dieu si c'est pour faire finalement le contraire des consignes qu'il nous a données. Ce qui est important, c'est que quand vous demandez à Dieu sa volonté et qu'il vous la donne, bah, il faut la faire. Vous voyez, parce que parfois, bah, ça ne nous convient pas, donc on change. Bah, il ne faut pas s'étonner après des conséquences. La prière de consultation permet aussi la révélation des choses qui nous sont cachées et dont on voudrait avoir la connaissance pour une raison pour une autre. Voilà l'exemple de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar, hein, fit un songe dont il ne se souvient plus, et donc il a lancé un défi. Il ne se rappelait même plus du songe. Et donc Daniel a dû trouver le songe qui ne lui a pas été donné, et ensuite après l'explication. Oui, mais c'est parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu pour, en consultant Dieu, il a reçu l'ensemble des informations qu'il a pu donner. Voilà. Donc, approchons-nous de Dieu dans la prière pour avoir la révélation des choses cachées. Consultons le Seigneur, car ces choses cachées sont à notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. C'est Deutéronome 29, 29. Relisez ce passage, je le relis. Hein. Car les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Il faut que nous recevions des révélations. Pas forcément des choses cachées. Les choses cachées sont à Dieu. Mais il nous révèle ce que nous devons connaître pour pouvoir le faire. Amen. Parce que nous marchons avec le Seigneur. Et le Seigneur marche avec nous. Et par exemple, la vision du phare dont il est question en ce moment, eh bien, on ne peut pas la suivre si on n'a pas la révélation. Parce qu'en fait, moi j'ai essayé pendant 20 ans de l'expliquer, et en fait ça s'est retourné contre moi, parce que les gens ne comprenaient pas, et du coup ils ont dit, bah oui, c'est la vision d'André. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas ma vision. C'est que moi je suis rentré dans une vision du Seigneur. Et c'est ça qui est merveilleux. Il y a un an maintenant, où j'ai vu que Constant a compris ça sans que je lui explique. Il a compris. Un peu comme il y a 20 ans, Ricardo a compris des choses. J'ai dit, mais comment tu fais? Il dit, mais Dieu m'utilise. On est étonné quand Dieu utilise quelqu'un parce qu'on se dit, mais comment il a fait? Ben, il n'a rien fait, il a simplement reçu. Et il le transmet, vous voyez, c'est un transmetteur, quoi. Et ça fait plusieurs fois dans l'Église qu'on vit ces choses-là. Et donc, on prie pour que vous receviez la révélation de cette vision du phare. Bien sûr, on va engager les trios pour vous aider, hein, mais je sais que ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on peut aider et à la limite se faire des ennemis en essayant d'aider. Parce que les gens se retournent contre celui qui essaye de faire. Voilà. Donc j'ai appris ma leçon. Et là maintenant, on est dans le fait de prier pour vous, pour tous les gens qui vont venir, pour qu'ils reçoivent la révélation. Révélation de la vision de Dieu pour cette église, pour ce bâtiment, pour ce qu'il veut faire ici. Consultez également Dieu pour recevoir donc cette révélation durant cette année où on va faire la vision, la croissance, les trios de croissance. Alors la prière d'autorité, je reviens un petit peu pour compléter ce que j'ai dit, parce qu'après il n'y en a plus que deux autres, qui est aussi la prière du combat spirituel ou la délivrance d'une ville. Oui, ça, moi, je ne savais pas du tout. Je me suis converti il y a 50 ans. Après, j'ai vécu beaucoup de choses. Et voilà, il n'y a que 25 ans, 30 ans, que j'ai appris qu'on pouvait libérer une ville tout entière et même une région. Dans ce type de prière, il s'agit d'exercer l'autorité du Christ. On doit toujours exercer l'autorité du Christ, mais particulièrement dans ce genre de prière d'autorité. Contre le monde de ténèbres, tel que Christ lui-même l'a fait. Donc là, il faut bien lire les évangiles, le Nouveau Testament, pour voir comment Christ a fait. Nous, on était bénéfice de John Wimber, qui est là, qui était un homme qui était utilisé par Dieu puissamment. Bah, il lisait le Nouveau Testament une fois par semaine, je ne sais pas combien de fois, quand il prêchait, parce qu'il était rempli de ce que Jésus faisait. Voilà. Et il faisait pareil. Donc si on prend Jésus comme modèle, dans tout ce qu'il fait, prier, guérir les malades, imposer les mains, etc., tout ce qu'il a fait, eh bien on peut s'approcher effectivement en tant que disciple pour faire comme Jésus et commander avec autorité et puissance. Luc 4, 36. Les chrétiens souvent sont paralysés devant des défis du monde de ténèbres. On parle beaucoup de ténèbres, beaucoup de diables, ok. Mais parfois ça paralyse. Là aussi, on fait parfois une œuvre inverse quand on parle de ça, parce que si on ne donne pas les clés, en fait, on est paralysé devant les obstacles. Jésus nous a donné le pouvoir, dit dans Luc 10, de marcher sur les serpents, les serpions, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Mais ce pouvoir doit être exercé. Ce n'est pas juste le dire. Et il nous a donné le pouvoir, ok, mais il faut l'exercer. Bon. Et donc, il faut apprendre à l'exercer. Contre le monde de ténèbres, contre toutes ces forces qui sont là. Et il faut savoir comment le faire. Il ne faut pas être intimidé, parce que l'ennemi cherche à nous intimider pour qu'on arrête. Dès qu'on commence, il nous intimide et on arrête. Et donc, il faut passer par-dessus. Voilà. Et là, il faut souvent un entraînement. La Bible dit dans 2 Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On va le dire tous ensemble. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Et un autre passage que je n'ai pas développé ce matin, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents, ce sont des gens qui sont déterminés à gagner. Quels sont ceux ce matin qui sont déterminés à gagner? Amen. Moi, j'appelle ça les vaillants hommes de David. Les vaillants hommes de David. David avait des hommes, mais il avait des vaillants et des super vaillants. Alors, je sais que dans cette église, Dieu va soulever des super vaillants. Dans ce type de prière, nous devons exercer l'autorité de Christ. Quand nous sommes en face de manifestations démoniaques, il y en a qui ont déjà vu des manifestations démoniaques ? Ouais. La première fois vraiment que j'en ai vu, c'est avec François Didier Laurent. On était une église de maison, mais on était plus nombreux que ça. On était presque une centaine chez moi, c'est assez grand. J'ai vu pratiquement la moitié des gens qui se transformaient en serpents, machin, ça bougeait tout. J'étais horrifié, quoi. C'est pas possible, quoi. En plus des chrétiens. Oui, parce que en fait, l'ennemi, il utilise le corps pour se manifester. Bon, je sais que les frères africains qui sont ici, bon, ils connaissent ça, c'est pas un problème, mais nous, ici, on le voit pas trop. Hein. Or, vous savez, les démonisations, les gens sont aussi démonisés qu'en Afrique. Hein. Sauf que ça se voit pas. Ça se voit pas. J'avais un frère africain qui était dans cette église, là, Fabien Tesca, et avec sa femme, ils habitaient à Elisabethville, du côté Épône, près de... Voilà. Il a dit, mais c'est incroyable, on sent que c'est subtil ici, tu vois, c'est subtil. Là. On ne voit pas les gourous, on ne voit pas les machins comme ça, mais dans les maisons closes, rassurez-nous, il faut savoir qu'il y a des choses qui se passent, voilà, dans des choses ici en France. Voilà. Et donc il faut être prêt à ces manifestations, mais il faut commander avec autorité pour les menacer comme Jésus l'a fait. Tais-toi, c'est tout. Oui. y a des développements énormes sur comment délivrer, etc., des techniques, etc., demander. Non, non. La seule chose qu'il faut faire, c'est prendre autorité au nom de Jésus et croire. Une fois de plus, c'est la foi. Et quand vous le prenez, ça s'arrête tout de suite. Voyez. Nous devons exercer cette autorité avec l'autorité du nom de Jésus. Et nous devons le faire avec la foi. Mais attention, quand on parle de cette prière d'autorité, il ne faut pas aller jusqu'à donner des ordres. Prier le Seigneur, faire certaines choses, mais pas toucher aux anges. Aux démons, oui, mais pas aux anges. Et c'est là que les choses se mettent un petit peu à être plus compliquées. Et je vous avais montré ce diagramme. Hein. Alors bon, là, c'est la requête de Daniel, hein, qui aussi a prié, mais je passe. Donc ce diagramme où vous voyez Dieu, qui est incréé, donc on ne peut pas le mettre dans une case, hein, c'est incréé, mais il y a le troisième ciel, et le premier ciel, et le deuxième ciel. Et le troisième ciel, c'est là où sont les anges de Dieu, qui sont à ses ordres. Le deuxième ciel, c'est Satan. Alors, imaginez pas des couches, hein, c'est spirituel, donc ça donne une idée simplement spirituelle des choses. Les anges qui ne sont pas mélangés avec les anges de Dieu parce qu'ils sont hostiles, parce qu'ils veulent détruire le royaume de Dieu. Donc, ils sont hostiles et ils commandent des démons. Ils commandent des démons qui, eux, sont sur la terre. Qui rentrent dans les gens. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier ciel. Donc, quand vous priez, eh bien, vous vous adressez à Dieu, hein, Dieu qui, bien sûr, n'est pas dans les limites de sa création, il est incréé, et lui, il répond. Alors, il répond directement par le Saint-Esprit, hein, puisque la puissance du Saint-Esprit peut vous répondre, mais il peut aussi donner des ordres à ses anges, hein, ces anges qui sont sous ses ordres, qui n'ont pas accepter de suivre Satan. Il y en a un tiers qui a accepté, mais tous les autres sont au service de Dieu. Donc, eux sont des messagers. Et après, les anges, eh bien, ils se mettent en route pour nous aider, pour venir à notre secours, et ils doivent passer cette couche d'hostilité. Et c'est ça qui est enseigné dans Daniel, par exemple Daniel 12, Daniel 13, etc., et bien dans d'autres passages. Voilà. Donc on appelle ça le combat spirituel. Et ce combat spirituel, eh bien, il faut effectivement faire attention à ne pas le faire n'importe comment. Ici, quand on était dans cette église, on a été confronté à ça. On a fait un combat que je dirais n'importe comment. Et on a eu plus de problèmes que de résultats. Donc il faut faire attention. Ce qui fait que Dieu nous a appris à le faire proprement et selon la parole de Dieu. Et puis maintenant, donc on peut avancer pour avoir des victoires. Vous voyez, par exemple, sur Élisabethville, ça vous ne le savez pas peut-être, mais je vous l'annonce, il y a cette rose. Vous voyez, cette rose est très belle, hein, une rose de vitrail. Eh ben, derrière cette rose, il y a vraiment des choses maléfiques, maléfiques. On retrouve ça aussi dans les rosaces de toutes les cathédrales. Vous savez, dans les cathédrales, derrière, vous avez des rosaces, hein, des roses. Eh bien, ça vient des Templiers, qui étaient dans les croisades en Israël, dans le temple de Jérusalem, de Salomon, et ils ont ramené ça. Et en fait, c'est une signification particulière que si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le deviner. C'est l'épanouissement de notre âme. Alors que l'enseignement de Jésus, c'est de faire mourir notre âme. Il a dit, celui qui veut me suivre, il doit faire mourir son âme, parce que l'âme est contraire à Dieu, parce que c'est notre volonté, c'est notre, etc., et marcher par l'esprit. Donc, c'est l'épanouissement de la chair. Donc, en fait, ce qu'on devrait faire chuter, eh bien, c'est exalter. Et ça, c'est enseigné en particulier dans les gnoses dont tu as parlé, Alexis, ce matin. Hein, c'est gnostique. Hein. Mais c'est très vieux, hein, parce que ça a commencé déjà avec Nicolas, les Nicolaïtes. Et Nicolas, c'était qui? C'était un diacre de l'église d'Antioche. C'était un chrétien. Diacre qui servait l'Église. Hein. Et en fait, Nicolas, les Nicolaïtes, eh bien, il avait déjà cette gnose. Mais comme c'est caché, comme voilà, une rose, c'est joli, Ben non, parce que tous les enseignements derrière, c'est pour vous susciter à sortir, à vous sentir bien. Aujourd'hui, il y a le nouvel âge et toutes ces choses-là. Maintenant, ça revient. Mais alors, beaucoup plus que même dans l'Église primitive, parce que ça prend des proportions énormes. Donc, vous voyez ça, vous voyez rien. Et en fait, pour ceux qui sont dans ces enseignements-là, eh bien, ils le pratiquent. Ils le pratiquent dans les foyers. Oui? C'est-à-dire? Oh, bon, sur Internet, hein, comme beaucoup de choses. Hein. Oui, elle est affichée dans Elisabethville, mais j'allais dire tout à l'heure que je vais vous montrer ça dans les trios, quand on parlait de la contextualisation, parce que dans les trios, il y a différents parcours, et au mois de février, tout le mois de février sera consacré à la contextualisation de la vision du phare. Et là, je vais vous montrer les roses où elles sont, si vous ne les avez pas vues, elles sont pleines, il y a plein de roses, hein, qui tombent du ciel. Et qui sont proposés par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, en plus. Voilà. Vous voyez, on est là dans une béatitude qui nous amène la malédiction. Un jour, comme j'étais un peu troublé, parce qu'en France, on ne peut pas trop parler à des pasteurs de ça, j'ai demandé à Mamadou Karambéry, qui est un peu l'apôtre de l'Afrique, et puis, il a commencé à sourire, parce que c'était un entretien personnel, juste Michel avec moi. Il dit, oui, mais nous, on ne peut pas dire ça en France, parce que les pasteurs ne connaissent pas. Mais nous, en Afrique, on sait ça. Voilà. Et tout ce que je lui disais, il dit, mais oui, mais c'est évident. Il s'amusait un peu de ce que je lui disais, de mes révélations que j'ai eues. Parce qu'il dit, oui, mais ça, en Afrique, on sait. Voilà. Et nous, on ne sait pas. Donc, vous voyez, en fait, il faut faire de la cartographie spirituelle. On appelle ça de la cartographie spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut identifier l'esprit qui est sur une ville, qui contrôle la ville. Parce qu'en fait, l'ennemi, comment est-ce qu'il contrôle l'humanité? Ah ben, il place des anges. Vous voyez, parce que lui, il n'est pas Dieu. L'ennemi n'est pas Dieu. Dieu, il peut faire avec son esprit, il n'est pas lié à quoi que ce soit. Ni dans le temps, ni dans l'espace, ni quoi que ce soit. Il peut lui envoyer aussi des anges, etc. Est-ce que le diable, non. Il est une créature. Donc il est organisé, et donc il met un ange particulier sur une ville, etc. Vous prenez les Amérindiens, enfin tous les Indiens, ils savent ça. Tous les Indiens. Pourquoi? Parce qu'ils trafiquent avec les esprits, etc. Et c'est pour ça que souvent, quand ils ont délimité un endroit, ils vont s'arrêter au moment où leur territoire s'arrête. Parce que s'ils vont de l'autre côté, donc s'ils combattent quelqu'un, les autres sont tranquilles parce qu'ils ne vont pas aller de l'autre côté. Parce qu'ils savent que ce n'est pas la même protection qu'ils ont de l'autre côté. Voilà. Et donc, et les gens maintenant, ils comprennent pas, parce que depuis 3 siècles, on est dans un siècle où on pense que la raison, que la science explique tout, voilà. Donc les gens n'y croient plus à ça. Mais c'est pas parce qu'ils n'y croient plus que ça n'existe pas, vous voyez? Ça existe toujours. Parce que tant que on n'est pas à la fin des temps, ces choses-là se manifestent. Et ceux qui savent, on dit, ah oui, faut écouter l'Orient, vous voyez, hein, l'Orient, ils savent des choses. Ou alors, chez les Indiens, alors, il y a des reportages, il y a des journalistes qui vont dans des tribus et qui font leur initiation. Et derrière, ils se retrouvent par jour, quoi. Parce qu'ils ne voient pas que derrière, il y a des esprits. Et s'ils se font initier simplement parce qu'ils veulent faire un reportage, eh bien, ils se mettent en danger. Et c'est comme ça que notre naïveté, chrétienne en particulier, eh bien, nous amène à avoir des problèmes qu'on pourrait éviter. À Elisabethville, il y a cette rose qui est la puissance de l'humanisme, c'est-à-dire élever l'homme, pousser l'homme à se perfectionner, pousser l'homme à se glorifier, pousser l'homme. Mais derrière, ils font des pratiques magiques et de sorcellerie. Voilà, ça, on l'apprend quand on rentre un peu dans ces cercles-là. Rassurez-vous, je ne suis pas rentré dans ces cercles, mais je sais comment ça se pratique et j'ai vécu certaines choses de personnes qui le pratiquent. Cette ville est réputée, réputée partout dans la France, parce qu'on a eu des témoignages de gens qui sont venus ici à Isabelle-d'Huile, sont réputés pour avoir des connaissances qu'on appelle ésotériques, c'est-à-dire des connaissances secrètes. Qui mettent en œuvre. Donc les gnostiques. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour ça. Hein, des gens du Nord, etc. Et au XXIe siècle, le siècle où on vit, ce sont ces fléaux qui menacent l'Église. Même le pape, qu'on croit le pape de ce qu'on veut, il a dit le plus grand fléau, c'est le gnosticisme et le légalisme. Parce qu'en fait, lui, quand il voit l'Église universelle, il voit bien les dangers, et lui-même, souvent, il est en danger par ces groupes-là. Quand j'ai cherché la face du Seigneur, personnellement, en 1996, à peu près, 15-16, parce que quand on est venu ici, on a eu des problèmes, alors que quand je faisais l'Église dans la maison, il y avait une croissance, il n'y avait pas de soucis, etc. Voilà. Et ici, on a eu du souci. Et j'ai demandé au Seigneur, explique-moi, j'ai consulté le Seigneur, je dis, explique-moi, il faut que je comprenne ce qui se passe ici, particulièrement. Alors il m'a dit, mais regarde, prends une carte. Ah bon? Je ne savais pas. Prends une carte de la région parisienne, tout ça. Donc j'ai pris une carte, il dit, maintenant, prends une règle. Donc j'ai pris une règle. Et j'ai découvert des choses qui sont connues, mais moi je ne savais pas, c'est pas révélation, eh bien qu'il y a des axes, qu'il y a des choses comme ça qui se passent et qui sont là depuis des centaines d'années. Et en particulier, ça remonte au temps des Templiers, des Croisades, donc plus de 1000 ans. Donc c'est des choses qui existent, voyez-vous, c'est pas parce qu'on ne le sait pas que ça n'existe pas. Simplement, quand on découvre après, on peut dire, ah oui, et puis on peut prier, et on peut rentrer justement dans cette prière d'autorité. Et le Seigneur m'a montré une chose aussi, en dehors de ses axes, il m'a montré, quand j'ai ouvert ma Bible, il m'a montré d'étudier un petit peu, parce qu'à la fin de ma Bible, que je n'ai pas là, il y a les découvertes archéologiques. Et dans ces découvertes, il m'a demandé de voir la ville d'Éphèse. Vous connaissez Éphèse, hein? Et j'ai regardé la ville d'Éphèse. Elle est très très bien documentée parce que les Américains, les archéologues, ont particulièrement fouillé cette ville-là plus que les autres. Et on connaît tout comment c'était articulé. Eh bien, le Seigneur m'a montré et j'ai dit, bah, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est une reproduction de la ville d'Éphèse. Par exemple, vous avez l'agora, hein, l'agora qui est représentée par la place de l'Étoile, où il y a les commerces, où il y a un échange, il y a aussi l'annexe de la mairie comme l'autorité qui dirige, etc. Il y a le marché couvert, etc. Voilà, c'est l'agora, c'est là où les gens se rencontrent. Bon, ben, il y a l'agora. Ensuite, après, il y a le théâtre, donc il y a le grand théâtre d'Éphèse, hein, qui est énorme, hein. C'est une ville de plus de 500 000 habitants à l'époque, hein. Donc c'est la troisième plus grande ville de l'époque. Et ici, il y avait un théâtre, et ça ressemblait à ça, hein. C'est-à-dire que là, vous avez encore un théâtre, ici il y avait un trou avec des balconnets autour, voilà, c'était un théâtre. Et dans ce théâtre-là, la reine venait, et jouaient des pièces, des mystères, des pièces à mystère. Les théâtres, ils ont commencé, c'était des pièces religieuses, Déméter, etc. Enfin, ils expliquaient la cosmogonie, comment se forme le monde, etc. Enfin, toutes les pièces grecques, c'était du théâtre religieux. Maintenant, on fait du théâtre sous toutes les formes, mais c'était ça. Et ici, se déroulaient ces pièces de théâtre. Donc, on initiait les gens à des cultes païens. Ouais. Donc tous les théâtres, c'était des cultes païens. Donc ici, il y a le théâtre, et il est exactement dans la même direction, parfaitement aligné, comme à Éphèse. Et ensuite, après, vous avez le temple d'Artémis, qui était la reine du ciel, qui était adorée à Éphèse. Et ici, c'est le temple de Sainte-Thérèse, de l'enfant Jésus, de la Sainte-Face, qui est l'équivalent d'Artémis, et qui est derrière, bien sûr, la figure de Sainte Thérèse, hein, qui est la pauvre, quand elle est morte, ils l'ont exploitée, comme beaucoup de choses, pour la diviniser. Mais en fait, c'est ça qui est derrière ça. Donc Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré ça et je dis, ah oui, d'accord. Donc là, il faut changer de braquet. On ne peut plus. Voilà, le combat spirituel est d'une autre nature. Mais en même temps, j'étais très encouragé de voir que Paul, alors tenez-vous bien, dans cette ville-là, où il y a Artémis, la reine du ciel, qui est adorée, dans toute l'Asie d'ailleurs, hein, voilà, eh bien, Paul, c'est là qu'il a établi la plus grande église de l'époque. Donc, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais il faut payer le prix. Et là, Paul, contrairement aux autres villes, il n'a pas été lapidé. Dans les autres villes, souvent, il était lapidé. Là, il n'est pas lapidé. Et qu'est-ce qu'il a sauvé ? C'est le droit. Et c'est ça que Ricardo a reçu comme révélation. Il m'a dit, André, mais ici, c'est acte 19 qu'on va appliquer, et tu vas voir, on va avoir des victoires. J'ai dit, écoute, bon, à l'intérieur de moi, j'ai dit, bon, le gars, il est un peu fêlé, mais j'ai plus d'autre solution, je le suis. Et je l'ai suivi, et c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Clarté, droit, autorité. C'est le droit, quand on établit le droit. Qu'est-ce qui s'est passé dans le théâtre d'Éphèse ? Eh bien, le régisseur du théâtre a dit, attendez là, il y avait des centaines de gens qui criaient, grand Eladien, d'Éphésiens, etc., et ils voulaient la peau de Paul. Il a dit, attendez, là, vous êtes dans une rencontre illégale, vous n'avez pas d'autorisation du gouverneur, donc on termine ici, vous demandez l'autorisation et reviens. Parce que pour moi, ces gens-là, ils n'ont rien fait, si ce n'est que, voilà, ils prêchent Jésus. Voilà. Jésus, mais ils n'ont rien fait à notre déesse, vous voyez. Et du coup, c'est arrêté, et Paul est parti, sans rien. Par contre, il a établi une église qui a duré 500 ans. 500 ans. Il y a eu deux conciles, des conciles, vous savez, à l'époque, les chrétiens qui se rassemblaient, ils définissaient la doctrine biblique, et en particulier la doctrine de la Trinité. De Nicée, Constantinople, etc., et d'Éphèse, il y a eu deux conciles qui ont été tenus dans cette enceinte. Alors, je vais vous lire quand même ce passage de Acte 19, verset 8, de l'histoire de Paul à Éphèse. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois et il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décrivant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc là, il a continué à faire son enseignement dans l'école de Tyrannus. C'était une école qui était en dehors d'Éphèse. Cela dura 2 ans. Donc là, il a enseigné 2 ans ses disciples. De sorte que ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Vous avez envie de voir ça ? Oui, c'est la Bible. Quelques exorcistes juifs, ambulants. Alors c'est bien des juifs, hein, c'est pas des païens. Vous voyez, vous pouvez mettre à la place chrétien aujourd'hui. Quelques juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva. Et c'est qui Sceva ? Je vous paye en 1000. C'est marqué « l'un des principaux sacrificateurs ». Les sacrificateurs, c'est ceux qui étaient dans le temple pour sacrifier. Vous vous rendez compte ? Et c'est les fils du sacrificateur qui essayaient de faire un exorcisme en utilisant le nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'esprit malin leur répondit : « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeurèrent à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Voyez-vous, ce qui est important, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Ce n'est pas nous qui devons le glorifier. Dans cette ville, on veut glorifier l'homme. Et nous, en tant qu'Église, on est supposé chercher à glorifier le Seigneur, chercher Jésus. Donc, il faut qu'on utilise la même méthode que Jésus. Et verset 19, un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Étonnant, c'est des croyants. C'est des croyants qui utilisaient les arts magiques. Et quand je vous dis qu'ici, on utilise les arts magiques, il y a des gens ici qui sont venus nous confesser ça. Donc on le sait. Et on l'a vu, quand on a fait du porte-à-porte, les arts magiques sont utilisés. Et tenez-vous bien, tous les livres, toutes les choses magiques qu'ils ont amenées à ce moment-là, on en estima la valeur à 5000 pièces d'argent. Vous savez combien ça fait en argent courant aujourd'hui, ce que ça ferait aujourd'hui? Si on avait la même expérience des chrétiens qui font ces choses magiques qui amènent les malédictions, bien sûr, sur la ville, et qui les amènent pour les brûler, et l'estimation de 5 000 pièces d'argent. Ça fait combien? Quelqu'un a une idée? Donnez un chiffre. Pardon? 12 millions? Bon, c'est parce que tu as une connaissance. Non, moi je dis 5 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'un drachme, c'est le salaire d'une journée. Alors j'ai utilisé 100 euros. Bon, ça peut être un petit peu moins, un peu plus. Hein, peu importe, c'est 5 ou 6 millions, ou 4, bon, c'est pas grave. 5 millions d'euros. Vous rendez compte, 5 millions d'euros de matériel de magie. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas combien coûtent les matériels de magie en Afrique, mais c'est plutôt rudimentaire. Mais enfin, il y a de l'or quand même. Hein. Je pense qu'il utilise l'or, etc. Bon. Et ça peut très, très bien aller très vite. Donc voilà, le passage biblique que nous lisons, c'est que les chrétiens qui pratiquaient en même temps la magie et en même temps le christianisme, la preuve, c'est ces fils de Sheva, ils invoquaient Jésus. Ils ont dit, ah oui, on invoque Jésus, ça marche. Ils se sont retrouvés complètement nus, dépouillés, etc. Parce que justement, on ne peut pas faire du combat spirituel n'importe comment. Et il faut qu'on soit soi-même préparé. Verset 20, je termine, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est de cette manière-là que l'Église pentecôtiste en France a avancé. Hein. C'est exactement le modèle de Jésus. D'ailleurs, très vite, ils ont mis sur ce comme si devant, on mettait « viens et vois ». Voilà. On n'a même pas besoin de prêcher. Tu rentres, tu vois, tu es guéri, etc. Et c'est ce que ma femme Michel a connu. Il l'a connu. Dans toute sa famille, ils sont tous miraculés. À l'époque, le dimanche, quand il y avait une réunion d'évangélisation, il y avait 5 ou 6 miracles dans une réunion. Voilà. Et ma belle-mère, enfin la mère de Michel, elle était dans cette rue-là. C'est la rue de Coville. Eh bien, avec sa copine, parce qu'elle a été catholique, etc., la copine, ils regardaient quand les gens sortaient. Ils ont dit, les fous, ils sortent. Pourquoi les fous, ils sortent? Parce qu'ils sortaient, ils étaient fous de voir des miracles. Incroyable, enfin, fous. Ils étaient tellement heureux que pour ceux qui regardaient, ils pensaient que c'était fou. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incroyables, ils étaient remplis du Saint-Esprit de voir à chaque fois des miracles. Bon, elle, après, a suivi aussi la voix du Seigneur, elle a jeté ses statues de Marie et tout ça. Mais voyez-vous, quand il y a une effervescence comme ça, la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Ça s'appelle un réveil. Je termine avec Éphèse. Éphèse portait, et c'est ça le gardien, pas le gardien, mais je cherche le mot du temple là, du théâtre, disait à la foule, en disant, mais vous savez bien que Artémis est la gardienne du temple, de ce temple. Et Paul, il peut parler de Jésus et tout ça, mais nous, ça bouge pas. Ça restera la gardienne du temple, etc. Vous voyez Artémis était cette déesse qu'on adorait pour la fertilité. Fertilité des femmes, fertilité des moissons, etc. C'est une déesse mère hein, qui représentait dans l'art antique, elle était recouverte de mamelles, hein, qui est l'expression de cette nourricière hein, qui nourrissait tout le monde. Et ce culte était répandu dans tout le monde civilisé, jusqu'à Rome, puisqu'à Rome, s'appelait Diane, hein, mais Diane, Artémis, c'est la même divinité. Et en France? En France, c'est quelle déesse qui remplace ça? On a une Artémis, on a une Diane. Vous avez déjà réfléchi à ça? Ben, on vous l'apprendra dans les cryos de croissance quand on fera la contextualisation. Il suffira d'aller dans l'église et vous verrez qui c'est. Ben, c'est Marie, Notre-Dame de France. Qui se trouve, elle a brûlé, on va la reconstruire, ça s'appelle Notre-Dame de France. Et pour faire bien, les Gaulois, ils utilisaient trois femmes, comme ça, voilà, ils représentaient la Trinité. Et donc, il y a trois patronnes qui règnent sur la France. C'est cette reine du ciel, Notre-Dame de France, plus Jeanne d'Arc, voilà, et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est effectivement patronne sur la ville. Elle a été déclarée sur la ville. La pauvre, elle est morte, hein, mais c'est exploité derrière pour que toutes les prières, toutes les requêtes qu'on fait, eh bien, on exalte effectivement cet esprit qui reprend de la force pour contrôler la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sainte Thérèse est aussi patronne des Rose-Croix. Et c'est là que Rose Croix, c'est des francs-maçons haut niveau, qui d'ailleurs sont très très représentés en Afrique, etc. C'est-à-dire c'est la franc-maçonnerie mystique. Voilà. Et là, on trafique des choses, etc. Et ils utilisent les roses. Les roses s'appellent mystiques. Voilà. Et donc, vous découvrirez ça quand on fera le temps de contextualisation de la vision. Nous, ce qu'on veut, c'est de passer de la ville d'Élisabeth, Élisabethville, à Eliabeth. Eliabeth, ça veut dire la demeure de Dieu. Parce que elle, c'est Dieu. Il y a, alors en anglais aussi, on dit you are here, c'est-à-dire vous êtes ici, c'est le C, on, elle est. Et la demeure. Beth, c'est Bethel, hein, c'est la demeure. Donc, ce qu'on veut, c'est. À la place de la reine qui était là, qui a amené ces mauvaises choses ici, on veut maintenant que ce soit la demeure de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a demandé de faire une maison de prière pour toutes les nations. C'est ça la vision du phare. C'est que Dieu avait pensé depuis plus de 500 ans, puisqu'il a commencé par Vaud à établir à Vaud, et puis maintenant c'est le quartier, nous on est quartier nord et le quartier sud, pour que Dieu veut faire une grande bénédiction ici, comme il a fait à Éphèse. À Éphèse, cette ville qui a été évangélisée par Paul et par les autres, eh bien ils ont eu des bénédictions. Regardez la bénédiction qu'il y a eu. Et Dieu veut faire ici la même chose. Il veut établir sa bénédiction. Et c'est à nous de saisir cette bénédiction et de rentrer dans cette réalité spirituelle. C'est pour cela qu'on va nettoyer les murs et les portes, comme Néhémie l'a fait. C'est les portes spirituelles. Hein, on vous expliquera quelles sont. Alors là, j'ai passé 6 mois avec le trio du phare hein, pour leur expliquer ça. Et c'est ça qui nous a soudés, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Et c'est ce que j'ai commencé à faire il y a plus d'une quinzaine d'années, que j'ai appelé les opérations Nikaolis. Nikao veut dire vaincre. Et le Seigneur a vaincu l'ennemi, et il veut nous donner la victoire. Et victoire sur Élisabethville. Alors je termine par Apocalypse, chapitre 2, verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Justement, c'est la ville d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteurs, et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Vous savez, moi, il y a quelques mois, je voulais tout abandonner, j'étais lassé. Lassé, lassé, lassé. Parce que quand vous combattez et que vous voyez que vous n'êtes pas suivi, vous dites, ça sert à quoi? Hein, parce qu'un homme ne peut pas faire grand-chose. Mais ce que j'ai contre toi, verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah! Si on revient à notre premier amour, l'amour de la parole, l'amour de la vision, l'amour de ce que Dieu veut faire, là les choses changent. Et ce qui a changé, c'est effectivement de voir que Dieu lève des hommes, et j'espère qu'il lève des femmes aussi. Mais les femmes, des fois, c'est plus facile à lever que les hommes. Mais lever des hommes, c'est un miracle. Et je remercie le Seigneur. Et les trios de croissance, c'est pour lever toute l'Église. Allô? Non? Ça vous reste. Moi, je suis passionné, enthousiasmé de vous voir vous lever. Oui. Et ces trios de croissance vont vous aider à vous lever, vous donner, et je prie pour que ce soit de la révélation, pas juste de la connaissance, de la révélation. Et que vous puissiez voir qu'aujourd'hui encore, eh bien, une église peut se lever pour remporter une victoire comme Paul l'a fait à Éphèse. Souviens-toi, verset 5, d'où tu es tombé, repens-toi. La repentance doit être au centre de cette opération Nicaolis. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te repentes. Il y a celui qui a démarré le mouvement Pentecôte, M. Nicole, que Michel a connu avant qu'il meure, Pierre Nicole. À un moment donné, il voyait que le mouvement se voyait. Mouvement de réveil, ensuite après un tassement, et puis les choses n'allaient plus dans les églises de Pentecôte. Aujourd'hui, on a tout retiré, toutes les pancartes, viens et vois. Bon, là, on ne fait plus d'évangélisation, etc. Et il a dit, si Dieu enlève le chandelier de ce mouvement, moi j'irai ailleurs. Alors que c'est lui qui a démarré le mouvement de Pentecôte en France. J'irai ailleurs, parce que ça ne sert à rien. Si Dieu enlève le chandelier, ça veut dire que derrière, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de prodige, il n'y a plus rien. Parce qu'on a délaissé notre premier amour. Verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Ah, on y est. Les œuvres des Nicolaïtes, c'est ce qui se passe ici, dans cette ville. Et je vous l'écrirai pour que dans les groupes de trio, vous puissiez le découvrir aussi. Et Dieu hait les œuvres des Nicolaïtes parce que c'est satanique, c'est les profondeurs de Satan. Dans d'autres passages, il parle des profondeurs de Satan. Mais là où le péché abonde, je le dis une fois de plus, la grâce surabonde. À condition de trouver des hommes et des femmes, une église qui croit dans la puissance de Dieu. Il y en a qui croient ici dans la puissance de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, si on croit dans la puissance de Dieu, on aura la victoire. Et verset 7, il termine en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai bien dit, l'Esprit, c'est pas André. Hello? Ôtez-vous ça de sa tête, c'est pas André, c'est l'Esprit qui dit aux églises. À celui qui vaincra, et là c'est le mot nikao en grec, à celui qui est nikao, je donnerai à manger l'arbre de vie. Il y en a qui veulent manger l'arbre de vie ici? C'est l'arbre de Jésus. Jésus, c'est l'arbre de vie. C'est celui qu'on devait uniquement, Adam et Ève devaient uniquement manger de l'arbre de vie, et ils ont mangé à l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est la gnose, c'est les connaissances, c'est toutes ces choses qui sont pratiquées ici. Et comme je le disais à Elisabeth, on pratique les œuvres des Nicolaïtes et je vous donnerai des détails quand le moment sera venu. À partir de 1998, j'ai développé ces prières de combat spirituel qui ont débouché sur ces opérations Nicaolis. Et on avait fait même quelque chose qui ne s'est jamais vu en France, c'est des temps de louange 24 heures sur 24 pendant 48 heures, où il y a 12 formations qui se sont relayer sans jamais s'arrêter. Quand 2 heures étaient passées, il y a un autre groupe qui montait, il n'y a jamais eu d'arrêt de louange. Et je peux vous dire que c'était fantastique, fantastique. On a eu des victoires incroyables. Parce que dans la louange, eh bien, vous faites fuir l'ennemi. Il ne peut pas tenir dans la louange. Voilà, donc c'est pour ça aussi que l'ennemi a attaqué la louange, hein, que là on a du mal à remettre un groupe de louange, mais ça va venir. Si on croit, les choses vont venir. Mais il faut la louange, il faut la louange, il faut des temps de louange. Moi j'ai vécu des temps de louange, ça s'appelle les moving les gatherings. Voilà. Alors là, on était 60% de Chinois, c'est incroyable quand ils peuvent louer, etc. Voilà, ça vous transporte, vous croyez au ciel, quoi, hein, pendant des heures et des heures et des heures. Et là, il y a vraiment la présence du Seigneur qui descend. En 2023, j'ai recommencé ces prières d'autorité avec Charles et Constant. Et là, j'ai le rêve que ce soit toute l'Église qui puisse rentrer dans ces temps de révélation. Et c'est le principe des trios de croissance. Voilà. Je termine par la dernière prière d'identification. S'identifier au peuple pour lequel on va prier, c'est se repentir pour ses péchés. Daniel disait, nous avons péché. Ça ne veut pas dire que Daniel n'avait pas de péché. Mais en tout cas, les péchés pour lesquels il s'est repenti, lui, il ne les faisait pas, mais s'identifier au peuple. Vous voyez, parce que l'Église est un corps. Plusieurs membres, mais c'est un corps, un corps. Jésus n'a qu'une seule église. Et pourtant, il y a des centaines, des milliers, des millions d'églises et dans tous les continents. Et voilà. Mais c'est un corps. Eh bien, il faut s'identifier au peuple ou à l'endroit où on est pour dire, Seigneur, on a péché. Nous avons péché. Parce que l'orgueil, il est aussi en nous. S'il est dans cette ville, il est aussi en nous. Chercher la perfection, surtout en France, perfectionnisme, bon ben, on ne peut pas en vouloir aux gens, chercher d'être parfait. Parce que nous aussi, on est dans ce mouvement-là. Vous voyez? En tout cas, je parle aux Français. Les Colombiens, peut-être, ils n'ont pas encore eu le temps, ils ont d'autres choses, mais ici en France, on cherche la perfection. Hein? Et il n'existe pas. Pourtant, on y croit. Et dans les écoles, on veut que l'enfant soit parfait, etc. Vous voyez? Mais parce que c'est un résultat de cette puissance qui agit sur le fait qu'on veut être parfait. Les Allemands, d'ailleurs, ils en ont marre des Français. Ils disent Wie glücklich in Frankreich. Ça veut dire qu'on est heureux en France, mais ils disent sans les Français. Oui. Ils aiment bien la France parce que voilà, on mange bien, voilà, ils viennent beaucoup, mais ils veulent pas les Français parce que les Français sont critiques, ils sont ceci, ils sont pingres, tout ça. Voilà. Quand vous écoutez les Allemands, c'est ça, c'est clair. Hein. Bon, pourquoi? Parce que le Français pense qu'il est parfait. C'est le coq, hein, gaulois, etc. Mais c'est spirituel, je vous assure, c'est spirituel. Et donc voilà, on a besoin de demander pardon. Pardon Seigneur, parce que nous avons péché. Et dans l'Église, comme ça aussi, pourquoi? Parce qu'on a du mal à s'entendre, tout ça, parce que c'est pas un facteur d'unité. Oscar insiste beaucoup, il a raison, sur les échanges humains. Mais les échanges humains sont à partir du spirituel, ça vient du spirituel, les mauvais échanges humains, vous voyez? Et quand on comprend ça, on s'adresse à la prière, donc on rentre dans la prière. Pour surmonter ça et avoir des échanges différents entre nous. Et ça amène tout à fait une autre dimension. Nous avons péché. Néhémie s'identifie aussi au peuple. Et dans toutes les prières d'identification, la repentance est importante. Mais à l'inverse, Dieu tient compte de cette identification, c'est-à-dire qu'ici, à Aubergenville, il y a 500 ans, il y a des chrétiens qui se sont réveillés pour réformer l'Église, l'Église catholique, pour faire l'Église réformée de France. Et ils se sont implantés ici, sur Aubergenville, dans le hameau de Vaux-les-Huguenots. Et Dieu tient compte de ça. Il y a une grande bénédiction sur cette ville, parce que ça a été une ville refuge. Des gens des environs venaient dans le temple qui était à Vaux-les-Huguenots. Et ici, les gens vont venir ici, dans cette église, qui sera un temple pour pour le Seigneur aussi, parce que le sang des martyrs, relisez Apocalypse et Anne Griffith qui est venue, elle nous a longtemps parlé de ça. Le sang des martyrs, Dieu l'entend. Dieu l'entend. Et il va redonner cette bénédiction. Donc nous, simplement, il faut qu'on rentre dans cette bénédiction. Elle est là, elle est là. Elle est dans le sol, elle est là. Elle crie en disant, oui, on a besoin à nouveau de gens qui veulent réformer l'Église, cette fois-ci évangélique, qui a besoin d'être réveillée. Voilà, donc la prière d'identification, cet enseignement sera développé dans les temps de repentance collective et en même temps dans les opérations Nicaolis, qu'on reprendra, que j'ai repris avec le trio dont j'ai parlé, et qu'on verra dans le cadre des trios de croissance, qui seront inclus dans ces temps de formation. Je termine ce message sur le mystère de la prière en disant, il y a différentes sortes de prières, mais c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans l'une et dans l'autre, dans ces différentes prières que j'ai évoquées. Parce qu'Éphésiens 6, 18 dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Ce verset regroupe tout le verset 6 du combat spirituel, hein, sur les puissances, etc., je les ai évoqués là. Et à l'époque de Paul, ils ont compris, parce qu'eux-mêmes, les chrétiens, étaient dans le syncrétisme, justement, de ces choses-là. Aujourd'hui, on ne comprend plus. On dit, ah, c'est quoi les puissances et tout ça. Mais les puissances, c'est très concrète. Mais il termine en disant, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et c'est ça qui va nous donner l'efficacité dans tous les outils, dans toutes les armes qu'on va utiliser, que ce soit l'épée de l'esprit. Voyez-vous, l'épée de l'esprit, tout à l'heure, si vous avez le nom de Jésus, si vous n'êtes pas dedans, vous repartez nu et blessé. Et les démons ne vont pas partir. Donc, il faut que ce soit dans la prière que nous puissions recevoir toute la force de laisser le Saint-Esprit agir au travers de nous. Ainsi, toutes nos prières doivent être assaisonnées d'actions de grâce. Parce qu'il est dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Nous devons aussi prier au nom de Jésus, car tout ce que nous demanderons en ce nom nous sera accordé, Jean 14, 13. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas mettre à la fin de nos prières la formule au nom de Jésus, pour terminer. Ce n'est pas une formule magique qu'il faut prononcer pour que la chose demandée s'accomplisse. Prier au nom de Jésus, c'est venir à Dieu de la part de Jésus, c'est-à-dire avec les mots de Jésus dans sa bouche, et il est peu probable qu'une prière, même si elle est terminée par la formule au nom de Jésus, soit exaucée, si les demandes de cette prière sont remplies d'orgueil, de convoitise, de jalousie, de désir personnel, de haine, j'en passe et des meilleurs. Parce que le Seigneur, il voit nos cœurs. Il voit nos cœurs. C'est pour ça qu'il faut purifier nos cœurs. On n'est pas dans la perfectionnisme, on est dans la purification. On doit purifier nos cœurs pour qu'ils soient authentiques devant Dieu. Et quand on fait une prière comme ça, le Seigneur l'entend, je renvoie aux publicains et aux pharisiens. Veillez donc à prier avec le cœur de Jésus. Jésus, il était obéissant à son Père. C'est un mot qu'on n'aime pas trop en France, obéir. Eh oui, il n'y a que l'obéissance qui permet d'avoir un cœur comme ça, et les mots de Jésus par l'Esprit dans une attitude d'action de grâce et dans la foi, ancrée dans l'espérance que les promesses de Dieu vont s'accomplir et sont toujours dans une... Il faut toujours être dans une disposition d'amour, c'est-à-dire don de soi. L'amour pas qui prend, mais qui donne, comme Dieu a donné son Fils. Et je termine, car sans la foi... C'est-à-dire sans voir tout ce que j'ai décrit très, très, très superficiellement, parce qu'il faut rentrer dans le détail, c'est l'école du phare qui va permettre d'approfondir ces choses-là, parce qu'il faut du temps. Eh bien, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Et d'être exaucé. Hébreux 11, 6. C'est pour ça que Jésus a pris l'exemple du centenier. En disant, cet homme, J'ai jamais vu autant de foi dans tout Israël. Parce qu'il a compris comment fonctionnaient les choses célestes. Et si on, tant qu'on ne comprend pas les choses célestes, on ne peut pas avoir la foi comme cet homme qui a dit, Jésus t'a dit un mot, il est guéri. Tout, je sais, et il a compris comment ça fonctionne, comme à l'armée. Parce que Dieu dit un mot, les anges viennent, t'attaquent, et ça marche. Vous voyez? Et donc, je crois qu'il faut qu'on soit dans cette attitude pour qu'on soit vainqueur. Amen. Seigneur, je te prie pour que cette Église puisse retrouver le chemin de la victoire. Le chemin, Seigneur, qui va permettre que cette ville soit transformée et qu'elle puisse rayonner dans toute cette région, dans toute cette belle vallée de la Seine. Seigneur, qui abrite tant de gens merveilleux, mais Seigneur, qui sont dans l'obscurantisme, qui se livrent à tout un tas de choses pour chercher une voie, chercher une solution. Seigneur, tu nous l'as donné en Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur, que le reste que nous sommes, qui va bientôt grandir, mais Seigneur, que ce reste, nous puissions être formés. Formés, équipés, comme toi tu as équipé les disciples que tu as envoyés en mission, et quand ils sont revenus, tu t'es réjoui en disant Satan est tombé du ciel. Et Seigneur, nous croyons que l'ennemi, quelle que soit sa puissance, c'est toi qui l'as vaincu. Et Seigneur, comme au temps de Paul qui a établi une école de Tyrannus, là, de 2 ans, un centre apostolique, eh bien Seigneur, tu pourras le faire ici, parce que tu vas trouver des hommes et des femmes qui croient en ta puissance, qui marchent, Seigneur, dans tes voies, qui obéissent à tes commandements. Et Seigneur, je te remercie de ce que cet aube est arrivé et que nous pouvons entrer maintenant dans ce chemin. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.